Et il y a un chapitre que j'ai commencé à lire tout à l'heure avec les enfants, qui contient un magnifique enseignement de Jésus sur cette question précisément. Comment vivre la communion fraternelle alors que le péché semble tout le temps la menacer? On va lire ce texte. Et on va lire en entier. C'est un texte assez long. On ne fait pas toujours ça. Mais c'est vrai que je trouve qu'il est très riche et très complet. Et donc, on va le lire en entier. Matthieu 18, verset 1. Donc, on va lire jusqu'au bout du chapitre. J'invite juste peut-être à prier avant cela. Seigneur notre Dieu, nous venons devant toi ce matin et nous voulons nous mettre à l'écoute de ta parole, à l'écoute de ce que tu veux nous dire à travers ces écritures que tu as inspirées par ton Saint-Esprit. Et Seigneur, que ton Saint-Esprit maintenant vienne nous faire comprendre ta parole, vienne nous aider à la mettre en pratique dans nos vies, vienne brûler ce qui a brûlé ou changé ou façonné dans nos vies. Et que Seigneur, nous puissions être une église qui soit fondée sur ta parole et qui essaye, avec l'aide de ton esprit, de la mettre en pratique. Que tout soit pour ta gloire ce matin. Aide-nous à être à ton écoute. Prions au nom de Jésus. Amen. Matthieu 18, verset 1. À ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui demandèrent: Dis-nous, qui est donc le plus grand dans le royaume des cieux? On l'a vu tout à l'heure, Jésus appela un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et il dit: Vraiment, je vous l'assure, si vous ne changez pas et ne devenez pas comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi le plus grand dans le royaume des cieux est celui qui s'abaisse comme un enfant. Et celui qui accueille en mon nom un enfant comme celui-ci m'accueille moi-même. Si quelqu'un devait causer la chute de l'un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux qu'on lui attache au cou une de ces pierres de meule qui font tourner les ânes et qu'on le précipite au fond du lac. Quel malheur pour le monde qu'il y ait tant d'occasions de chute. Il est inévitable qu'il y en ait. Mais malheur à celui qui crée de telles occasions. Si ta main ou ton pied cause ta chute, coupe-les, jette-les au loin. Il vaut mieux pour toi entrer dans la vie avec une seule main ou un seul pied que de garder tes deux mains ou tes deux pieds et d'être jeté dans le feu éternel. Si ton œil cause ta chute, arrache-le, jette-le au loin, car il vaut mieux pour toi entrer dans la vie avec un seul œil que de conserver tes deux yeux et d'être jeté dans le feu de l'enfer. Faites attention, ne méprisez pas un seul de ces petits, je vous l'assure. Leurs anges dans le ciel se tiennent constamment en présence de mon Père céleste. Qu'en pensez-vous? Si un homme a 100 brebis que l'une d'elles s'égare, ne laissera-t-il pas les 99 autres dans la montagne pour aller à la recherche de celle qui s'est égarée? Et s'il réussit à la retrouver, vraiment, je vous l'assure, cette brebis lui causera plus de joie que les 99 autres qui ne s'étaient pas égarées. Il en est de même pour votre Père céleste. Il ne veut pas qu'un seul de ses petits se perde. Alors, si ton frère s'est rendu coupable à ton égard, va le trouver en tête à tête et convainc-le de sa faute. Mais que cela se passe en tête à tête. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes pour que tout ce qui sera dit soit appuyé sur les déclarations de deux ou de trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. S'il refuse aussi d'écouter l'Église, mets-le sur le même plan que les païens et les collecteurs d'impôts. Vraiment, je vous l'assure, tous ceux que vous exclurez sur la terre auront été exclus aux yeux de Dieu et tous ceux que vous accueillerez sur la terre auront été accueillis aux yeux de Dieu. J'ajoute que si deux d'entre vous se mettent d'accord ici-bas au sujet d'un problème pour l'exposer à mon Père céleste, il les exaucera, car là où deux ou trois sont ensemble en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Alors Pierre s'approcha de Jésus, lui demanda: Seigneur, si mon frère se rend coupable à mon égard, combien de fois devrais-je lui pardonner? Irai-je jusqu'à 7 fois? Non, lui répondit Jésus, je ne te dis pas d'aller jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. En effet, il est du royaume des cieux comme d'un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Lorsqu'il commença à compter, on lui en présenta un qui lui devait 60 millions de pièces d'argent, 10 000 talents. Comme ce serviteur n'avait pas de quoi rembourser ce qu'il devait, son maître donna ordre de le vendre comme esclave avec sa femme et ses enfants, ainsi que tous ses biens pour rembourser sa dette. Le serviteur se jeta alors aux pieds du roi et se prosternant devant lui supplia. Sois patient envers moi, accorde-moi un délai, je te rembourserai tout. Pris de pitié pour lui, son maître le renvoya libre, après lui avoir remis toute sa dette. À peine sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons de service qui lui devait 100 pièces d'argent. Il le saisit à la gorge en criant « Paye-moi ce que tu me dois !» Son compagnon se jeta à ses pieds et le supplia « Sois patient envers moi, lui dit-il, accorde-moi un délai, je te rembourserai. » Mais l'autre ne voulut rien entendre. Bien plus, il alla le faire jeter en prison en attendant qu'il ait payé tout ce qu'il lui devait. D'autres compagnons de service, témoins de ce qui s'était passé, en furent profondément attristés et allèrent rapporter toute l'affaire à leur maître. Alors celui-ci fit convoquer le serviteur qui avait agi de la sorte. « Tu es vraiment odieux, lui dit-il. Tout ce que tu me devais, toi, mon serviteur, je te l'avais remis parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait remboursé toute sa dette. « Voilà comment mon Père céleste vous traitera, vous aussi, si chacun de vous ne pardonne pas du fond du cœur à son frère. » Voilà un grand discours de Jésus, chapitre 18, qui se présente comme un unique discours, vous voyez, un ensemble. Et ce discours, vous avez vu en quoi, en réponse à quelle question il est donné. Quelle est la question des disciples? Jésus dit, nous, qui est le plus grand dans le royaume des cieux? Et ensuite, Jésus répond avec ce discours. Et il répond avec des questions bien terrestres, celles des relations humaines actuelles entre ceux qui prétendent au royaume des cieux. Vous voyez, Jésus va utiliser, je ne sais pas si vous avez remarqué, le vocabulaire de la vie de famille. C'est très présent dans ce texte. Il s'agit d'être comme un petit enfant, de prendre soin des plus petits, sous le regard du Père, de reprendre son frère qui a péché, de s'accorder ensemble devant le Père, de pardonner son frère comme le Père nous a pardonné. Vous voyez, les disciples, eux, ils s'intéressaient au royaume des cieux. Royaume des cieux, wow. Jésus, il leur parle de la famille de Dieu. Ils se voient des sujets du roi des rois. Et Jésus leur rappelle qu'ils sont les fils et les filles de leur Père céleste. Ils aimeraient savoir comment les choses vont se passer au ciel. Jésus tourne leur regard vers la famille de Dieu qu'il compose en Jésus-Christ. Quelque part, Jésus dit, vous voulez manifester le royaume de Dieu sur la terre, alors soyez la famille de Dieu. Et voici comment. Premièrement, considérez-vous comme le plus petit de la famille, le petit dernier. Et à l'époque, dans le monde ancien, les enfants n'étaient pas estimés comme aujourd'hui. Le petit dernier, ce n'est pas celui qu'on chérissait, pas forcément. C'était le petit dernier, le moins considéré de tous, celui qui a tout à apprendre des autres. Jésus dit, voilà, avant de vouloir donner des leçons à ton frère qui a péché, il faut reconnaître que nous ne valons pas mieux, je ne vaux pas mieux. Dans la famille de Dieu, de Jésus, nous sommes tous, nous tous, des pécheurs pardonnés, des condamnés graciés. Il n'est pas possible d'entrer dans le royaume des cieux si on ne se reconnaît pas un pécheur qui a besoin de la grâce de Dieu. Un petit. Et quelque part, la communauté qui serait composée de croyants qui font tous mine d'être des parfaits, sans purs et sans tache, jamais sans reproche, ça serait une communauté qui joue la comédie, hein? Mais bien plus grave, c'est une attitude qui peut emprisonner les membres de la communauté. Parce que si on nous dit que tout est parfait dans la communauté, forcément, lorsqu'on en vient à pécher, on n'ose plus confesser son péché. On le cache dans ce contexte-là. Et on s'enferme dans ce péché. Et sous une apparence pieuse peut se cacher une prison pour celui qui pêche. Et on devient parfois ces pharisiens que Jésus dénonce fermement, des personnes qui se croient tellement pieuses qu'elles n'ont plus besoin de pardon, plus besoin de la grâce. Et face à cela, Jésus nous invite à nous considérer comme le plus petit de la famille. Nous ne valons pas mieux que notre frère pécheur. C'est le premier point. Et un bon remède contre le sentiment de supériorité, c'est de réaliser la gravité du péché. Dans le passage que nous avons lu, au début, hein, Jésus il utilise des images assez choquantes, assez fortes. Hein, je ne sais pas si ça vous choque aussi, mais il nous dit par exemple, si ta main, ton pied, ton œil font tomber dans le péché, qu'est-ce que tu fais ? Ben, coupe-les, jette-les au loin. C'est quand même assez une image forte, bien sûr, il ne faut pas la prendre au sens propre. Hein, mais il dit, voilà, il vaut mieux pour toi entrer dans la vie estropié que d'être jeté dans le feu de l'enfer. Qu'est-ce qu'il nous dit Jésus à travers ça ? Il nous dit, ben, le péché c'est sérieux. C'est une question très sérieuse, il ne faut pas minimiser la gravité du péché. Parce que ça nous condamne à l'enfer, le péché. Et si nous sommes pardonnés gratuitement en Jésus-Christ, ce n'est pas un pardon qui n'a rien coûté à notre Seigneur. C'est un pardon qui a coûté un très grand prix à notre Seigneur. Pour notre Père céleste, il en a coûté la vie de son propre Fils. Dans la parabole qui conclut le passage qu'on a lu, la dette que nous avons envers notre Père céleste est comparée à la dette qu'un frère ou une sœur a envers nous lorsqu'il nous a fait du mal ou lorsqu'il a péché contre nous. Je pense qu'on a tous, en tout cas ceux qui ont un peu d'expérience de vie, un jour souffert douloureusement du mal que l'un ou l'autre de nos proches ou moins proches nous a causé. Et Jésus nous dit, eh bien, imaginez que ce mal que vous avez subi puisse être comparé à une dette que votre enfant offenseur a envers vous. Cette dette équivaudrait alors à une centaine de pièces d'argent. C'est une belle somme, une centaine de pièces d'argent. Pièces d'argent, c'est l'équivalent d'un salaire d'une journée de travail. C'est 100 pièces, c'est quoi ? C'est 3 ou 4 mois de travail. C'est quand même une grosse somme. Mais il dit en comparaison, votre dette envers le Père céleste, comme celle du serviteur impitoyable, hein, elle est de 60 millions de pièces d'argent, 10 000 talents, 10 000 lingots d'or. À l'époque de Jésus, c'était une somme incroyable. Il y a des historiens qui ont estimé que cette somme, ça représente l'équivalent du salaire d'un ouvrier classique pour 200 000 ans de travail. 200 000 ans de travail de salaire. Calculez, par exemple, je ne sais pas si vous faites le calcul, hein, aujourd'hui, un ouvrier, on pourrait dire, gagne peut-être 20 000 euros par an. 20 000 euros par an, fois 200 000, ça fait combien ? 4 milliards. Et je pense que si Jésus prend cette image, c'est parce que c'est une somme tellement énorme, impensable. C'est surtout ça qu'il veut montrer à travers cela. Mais qu'est-ce qu'il veut nous dire ? La gravité de notre péché envers Dieu est infiniment plus grave que celui de notre frère envers nous. Et avant de regarder la paille qui est dans l'œil de notre voisin, pardon, il faut regarder la poutre qui est dans la nôtre, dit la Bible. Nous sommes le petit dernier de la famille et nous n'avons aucune raison de nous vanter. Ça, c'est la première chose que Jésus rappelle au début de cet enseignement. Deuxièmement, face au danger du péché, nous sommes invités à prendre soin aussi de nos frères et sœurs et de le faire comme le Père céleste, le fait. C'est le verset 14 qui dit ça. Le désir de notre Père céleste, c'est qu'aucun de ses enfants ne se perde. Et nous sommes invités à partager ce même désir, ce même souci pour nos frères et sœurs en Christ. Dans notre lutte contre le péché, nous sommes appelés à être une communauté qui se serre les coudes. Et on peut le faire de trois manières. Jésus évoque, en tout cas, on pourrait résumer trois manières dans ce que Jésus évoque là. Première manière, nous sommes invités à ne pas être une occasion de chute pour les autres, pour les plus petits, Jésus dit, de nos frères et sœurs en Christ. Et Jésus condamne sévèrement celui qui participe à faire tomber dans le péché son frère. Si quelqu'un devait faire tomber dans le péché l'un de ces petits qui croient en moi, dit Jésus, il vaudrait mieux qu'on lui attache au cou une de ces pierres de meule que font tourner les ânes, quelque chose qui pèse très très lourd, et qu'on le précipite au fond du lac. Wow. Il ne va pas de main morte, hein, Jésus. Bien sûr, il ne faut pas le prendre au sens propre, c'est aussi une manière de nous faire réaliser la gravité lorsqu'on entraîne quelqu'un dans le péché. Nous sommes encouragés à être attentifs aux plus petits, c'est-à-dire aux faiblesses aussi de nos frères et sœurs, et à ne pas jouer avec ces faiblesses. Par exemple, si on a un frère qui a un souci avec l'alcool, on ne va pas l'inviter à boire l'apéro. Si nous savons que tel frère ou telle sœur s'emporte facilement quand on aborde un sujet particulier, on ne va pas s'amuser à titiller. Vous voyez, tout acte malveillant, toute parole blessante, c'est aussi quelque chose qui peut être une occasion de chute pour mon frère ou pour ma sœur. Parce que lorsque nous insultons quelqu'un, ou lorsque nous mentons, lorsque nous dénigrons, lorsque nous rapportons des choses, non seulement on fait du mal à l'autre, mais on crée un terrain propice pour la vengeance. Parce que celui qui nous insultons en général, il va être très tenté de répliquer, n'est-ce pas, par une insulte. Donc non seulement je pêche contre lui, mais je le pousse à pécher. Et c'est grave. Celui à qui nous mentons, il aura du mal à nous faire confiance par la suite. Il pourra aussi peut-être nous dénigrer à son tour. Donc ne soyons pas une occasion de chute pour nos frères et sœurs. Ça, c'est le premier point, ce que rappelle Jésus. Ne pas être une occasion de chute, pas penser juste à mon péché, mais aussi à ce qui peut causer dans la vie de l'autre. Deuxièmement, prenons soin des brebis égarées, dit Jésus. Jésus donne ici l'exemple du bon berger, d'un bon berger qui n'hésite pas à laisser les 99 brebis du troupeau pour aller chercher la brebis égarée. Et quelque part, il nous dit, ayez cette attitude-là aussi, vous. Soyons attentifs à nos frères et sœurs qui peut-être vivent des temps de doute ou d'éloignement. C'est important de passer du temps avec ceux qui semblent s'éloigner de la communauté. Et Matthieu 18 parle ici du péché, c'est bien que notre frère pécheur dont nous sommes, c'est de lui que nous sommes invités à prendre soin. C'est celui dont le péché peut-être parfois l'éloigne du bon berger, c'est lui qu'il faut peut-être aller rechercher, prendre soin en particulier. Et pour cela, apprenons à nous revêtir de l'attitude du bon berger, Jésus-Christ, et son Père aussi, qui est présenté aussi ici comme le bon berger. Souvenons-nous de l'amour de Dieu, de sa compassion, de sa bienveillance, et souvenons-nous de son attitude envers nous. Et demandons au Saint-Esprit de nous donner la même attitude envers ceux qui s'éloignent un peu du troupeau à cause du péché. Troisième mesure et troisième chose que Jésus aborde dans ce texte, et qui est aussi une manière de prendre soin de son frère, c'est d'aller le trouver en lui signalant son péché. Ce que dit Jésus au verset 15. Si ton frère a péché contre toi, va le trouver et convainc-le de sa faute. Ici, on a le « si ton frère a péché contre toi », dans d'autres, dans le passage parallèle en Luc, il n'y a pas le « contre toi ». Si ton frère a péché, va le trouver, convainc-le de sa faute. Et je crois que, voilà, que ce soit contre moi que mon frère a péché, ou contre quelqu'un d'autre, il y a plusieurs passages bibliques qui rappellent que c'est le rôle de ceux qui composent le peuple de Dieu, l'Église, de aussi dénoncer le péché. Mais cela ne peut se vivre que si nous avons auparavant adopté l'attitude, l'humilité du petit enfant, la bienveillance du bon berger. Et puis Jésus dit, en premier lieu, que ça se passe en tête à tête. Si ton frère a péché, va le trouver. Mais un tête à tête, seul à seul. Ça doit se faire discrètement. Personne n'a besoin d'être au courant. Alors, il faut faire attention ici, voilà, et pas peut-être rajouter dans certains cas, notamment les cas d'abus ou de crimes graves. Voilà, c'est pas de ça qu'on parle, hein. Où là, il y a besoin des fois de faire appel à quelqu'un d'autre justement pour intervenir dans cette situation. Parfois, faire appel même à la justice dans les cas les fautes les plus graves. Mais ici, on parle voilà plutôt des péchés qui sont causés dans et qui sont pas, on va dire, en lien avec des questions d'abus. En tout cas, dans un premier temps, aller trouver son frère, sa sœur. Personne n'a besoin d'être au courant, parce que l'objectif, ce n'est pas d'humilier son frère ou sa sœur, ce n'est pas de se venger en lui disant ces quatre vérités. L'objectif, nous dit Jésus, si tu écoutes, tu auras gagné ton frère, tu auras gagné un frère. C'est notre désir. S'il nous écoute et qu'il confesse son péché, qu'il se repent de son péché, nous aurons gagné un frère. Nous pourrons lui annoncer le pardon de Dieu accordé en Jésus-Christ. Nous pourrons accueillir notre frère dans la maison d'un père qui accueille le pécheur repentant. Un frère dans la fraternité des enfants prodigues. Hein, un frère de retour dans la bergerie du bon berger. Mais si notre frère ne veut pas nous écouter, notre sœur, nous sommes alors invités, dit Jésus, à appeler le reste de la famille à la rescousse. S'il ne veut pas nous écouter, nous, peut-être voudra-t-il écouter deux ou trois frères et sœurs ensemble. Et là encore, rappelons que l'objectif, ce n'est pas d'humilier le pécheur, mais de l'amener à réaliser son péché. Alors il faut bien choisir les deux ou trois témoins. Plutôt des personnes qui sont connues pour être impartiaux, discrets, bienveillants. Pas des personnes qui, voilà, on sait que ça ne seront pas facilement écoutées. Des frères et sœurs qui seront plus facilement écoutés. Et enfin, dit Jésus, si et seulement si on ne reconnaît toujours pas sa faute, il nous invite à réunir un conseil de famille, hein, réunir l'Église entière. Si face à la famille réunie, il refuse à nouveau de reconnaître son tort, Jésus nous dit de le considérer comme un païen, c'est-à-dire comme un non-chrétien. C'est vrai qu'on a parlé jeudi soir, c'était aussi le texte sur lequel on était dans l'Épître aux Corinthiens, qui parle de cette décision difficile qui peut arriver à l'Église d'exclure un membre de la famille, c'est quelque chose qui est douloureux. Mais qui est présenté aussi dans 1 Corinthiens, comme dans ce texte, non pas dans un esprit de punition ou de séparation, mais dans un objectif qui est un seul objectif, conduire le membre pécheur, à la repentance. C'est dans une démarche de désirer le salut pour l'autre, qu'on doit considérer comme un païen. Et de la même manière que nous avons le devoir d'annoncer l'Évangile aux non-chrétiens hein, qui nous entourent, nous sommes appelés à lui rappeler par la suite hein, la bonne nouvelle du pardon et du salut en Jésus-Christ. Notre espérance, c'est de le voir un jour se tourner à nouveau vers Christ. Notre désir, c'est de pouvoir l'accueillir à nouveau comme un frère dans la maison du Père. Et c'est ce que Jésus, d'ailleurs, sous-entend par la suite, après ce passage justement sur ce qu'on appelle la discipline dans l'Église. Jésus souligne pas seulement notre responsabilité fraternelle dans la lutte contre le péché, il nous invite aussi à être une communauté unie qui va témoigner de la grâce qui nous a été accordée par le Père. Et comment est-ce qu'on peut témoigner de la grâce? Comment est-ce qu'on peut être une famille unie? Eh bien, c'est le thème du pardon qui va être évoqué dans la dernière partie du discours de Jésus. En pardonnant à ceux qui nous ont causé du tort, pardonne-nous comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Comme le Père nous a pardonnés en Jésus-Christ, nous sommes appelés à pardonner en vivant la réconciliation. Face au péché qui détruit, qui divise, nous sommes invités à rester une famille unie. Et ça, c'est possible uniquement par le pardon et la réconciliation. Parce que ça n'existe pas une communauté où il n'y a jamais de difficultés ou qu'il y a des relations toujours, toujours parfaitement harmonieuses. Malheureusement, nous sommes encore en proie, en lutte avec le péché. Et la solution que Jésus présente, ce n'est pas de nier cela, mais c'est de se confronter au problème du péché et d'y répondre avec le pardon et la réconciliation. Pardonner. Pardonner jusqu'à 70 fois 7 fois, c'est-à-dire sans limite, comme le Père nous a pardonné. Mais qu'est-ce que ça implique exactement? Qu'est-ce que ça implique? Souvent on dit, voilà, il faut pardonner. Mais ça veut dire quoi? Alors, il y a un débat parmi même les théologiens au sujet de la question suivante. Est-ce qu'il faut que celui qui nous a offensés, donc on parle d'une offense que j'ai subie de quelqu'un d'autre, est-ce que cette personne doit d'abord reconnaître son tort, demander pardon, pour que je puisse la pardonner? Il y a certaines personnes qui pensent qu'on ne peut pas pardonner quelqu'un qui ne vient pas demander pardon dans une démarche de repentance. Et on prend l'exemple de la manière dont Dieu nous pardonne. Si on ne se reconnaît pas pécheur, est-ce qu'on peut accéder à accueillir le pardon de Dieu dans nos vies? Non. On ne peut pas être sauvé du jugement si on ne se reconnaît pas pécheur et qu'on ne reconnaît pas qu'on a besoin de la grâce de Dieu. Celui qui ne se reconnaît pas fautif devant Dieu peut difficilement être sauvé. Et par analogie, on considère que le pardon, ça implique une démarche de demande de pardon. Reconnaître les torts, et ensuite on peut pardonner. Il y a d'autres théologiens toutefois qui disent que le pardon, ici, il est inconditionnel. C'est-à-dire qu'il convient de pardonner l'autre, même s'il ne reconnaîtrait pas son tort, même s'il ne nous demande pas pardon. Et on prend l'exemple de Jésus qui a dit sur la croix, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors moi, je n'ai pas d'avis très tranché sur la question, mais ce qui me semble clair dans la Bible, c'est que, surtout quand c'est quelque chose de fort entre deux personnes, un conflit qui nous marque, pardonner, ce n'est pas juste quelque chose que je fais dans mon cœur. Ça, ce n'est pas la définition biblique du pardon. Ça, c'est la guérison intérieure. Le Seigneur vient guérir nos blessures. Il veut nous guérir du mal qu'on a subi. Il veut apporter une guérison. Et ça ne dépend pas de l'attitude de l'autre. Le Seigneur, il veut faire ça dans nos vies. Il veut nous libérer de la haine causée par la faute de notre frère. Et on peut demander au Saint-Esprit de venir penser les blessures les plus profondes, pour qu'on n'ait plus de rancœur, quelle que soit l'attitude de l'autre. Qu'ils viennent restaurer notre confiance, qu'ils viennent peut-être nous aider aussi à pardonner. Ça, c'est plutôt la guérison intérieure, pas le pardon. C'est pas parce qu'on n'a plus de rancœur ou de ressentiment envers quelqu'un que nous lui avons pardonné. L'objectif du pardon, c'est la réconciliation. Et ça implique une démarche. Ça implique une démarche entre l'offenseur et l'offensé. Et la parabole que Jésus donne pour illustrer le pardon montre bien cela. Le pardon, c'est comme une remise de dette. Quelqu'un qui m'a fait du mal, il a une dette envers moi. C'est pas la guérison intérieure ici, c'est une terminologie juridique qui est employée, vous voyez? Lorsque l'autre m'a fait du mal, il a une dette envers moi pour laquelle il devra rendre compte devant le divin juge. Et lorsque je lui pardonne, je lui remets cette dette. Je le libère de cette faute. Il était condamné, je décide de l'acquitter. Et je ne peux pas simplement lui pardonner dans mon cœur, ça n'aurait pas de sens. Le pardon, il implique forcément une démarche entre l'offenseur et l'offensé. Je dois aller trouver celui qui m'a fait du mal pour le libérer de sa culpabilité, lui remettre sa dette envers moi. Et ça implique parfois un cheminement qui est long, selon la gravité de l'offense, parfois un cheminement qui est difficile, et qui implique les deux. C'est-à-dire que si l'autre, effectivement, ne reconnaît pas sa culpabilité, ça va compliquer en général la démarche. Mais voyez, ce n'est pas la même chose que ce que le Seigneur veut faire en nous, et je crois qu'il veut guérir aussi les blessures, les choses qu'on a pu vivre dans nos vies par son esprit. Pierre demande à Jésus, combien de fois devrais-je pardonner mon frère? Et là, la réponse de Jésus est encore qu'il nous faut pardonner encore et encore. Tout simplement parce que si nous pardonnons réellement, la dette de celui qui nous a offensés est effacée. La dette est à zéro. Les compteurs sont remis à zéro. Par conséquent, si on doit à nouveau lui pardonner une autre offense, c'est comme si on lui pardonnait la première fois. Il faut préciser là aussi un point qui me semble important. Pardonner celui qui a fait du mal, ce n'est pas minimiser le péché. Ce n'est pas dire « allez, c'est pas grave, allez, c'est pas grave ». Surtout quand c'est grave. Hein. Jésus ne minimise pas le péché. Rappelez-vous ce qu'il dit avant. Hein. Il emploie des images quand même solides, hein, assez violentes. La main coupée, le feu de l'enfer, le fond du lac, hein. C'est pas rien le péché. Et pour pouvoir pardonner, ça c'est important de savoir accepter aussi qu'on nous a fait mal. Lorsque je dis cela, hein, je ne vise pas ceux qui se sentent blessés aux moindres paroles de travers. Il y en a qui se sentent un peu, des fois blessés un peu trop facilement, mais plutôt ceux qui auraient tendance à enfouir ou minimiser les souffrances qu'ils ont pu subir de la part de quelqu'un d'autre. Et ça peut être une manière, vous savez, psychologiquement, de se protéger. Hein. Mais ce n'est pas une manière saine de voir le péché. Le péché est grave. Et notre Dieu considère le mal qu'on nous fait comme quelque chose de grave. Et c'est pour cela que le pardon, c'est une vraie démarche et que ça implique quelque chose de sérieux. Qu'on puisse aller trouver celui qui nous a fait du mal en disant « j'ai été blessé par tes paroles, j'ai été blessé par tes paroles ou par ton attitude ». Va voir ton frère qui a péché contre toi. Non pas dans un objectif de faire souffrir l'autre. Oui, j'ai été blessé. Ça m'a fait du mal. Mais dans le but que s'il nous écoute, nous aurons et nous pourrons gagner un frère. Parce que l'objectif, c'est la réconciliation. Et si le pardon a une grande importance pour la communion fraternelle, c'est parce qu'il est à condition au maintien de relations vraies. Et c'est pour ça que Jésus, après avoir parlé de la discipline, va dire « Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. » On le cite, hein, ce verset, c'est bien connu pour rappeler que le Seigneur est particulièrement présent quand on prie ensemble. Je l'ai dit le mois dernier, on a parlé de l'adoration, que le fait qu'on est ensemble, il y a une présence particulière du Seigneur. Mais c'est intéressant de voir qu'il est juste au milieu d'un passage qui nous parle du pardon. Parce que l'objectif du pardon, c'est que ceux qui étaient séparés par le conflit, par le péché, puissent à nouveau s'accorder ensemble dans la prière et demander ensemble au nom du Seigneur. L'objectif du pardon, c'est que ceux qui étaient désunis puissent à nouveau se réunir au nom du Seigneur. Voilà un des objectifs. Alors là aussi, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas tenir compte du passé ou de ce qui s'est passé, même si je ne garde aucune dette quand j'ai pardonné envers l'autre, je dois aussi être conscient que le péché révèle ses faiblesses. Et rappelez-vous, je suis appelé à faire attention à mon frère et ma sœur et à ne pas être une occasion de chute par rapport à ses faiblesses. Et dans certains cas, ouais, il y a des mesures parfois à prendre, dans les cas les plus graves, quand il y a des questions d'abus ou autres, On ne peut pas faire comme si de rien n'était par la suite, mais c'est par amour de nos frères et sœurs, pour l'empêcher de retomber aussi dans le péché, et aussi pour protéger les potentielles victimes, qu'il faut aussi parfois prendre des mesures. Mais il faut bien, voilà, distinguer aussi les choses. On ne fait pas comme si il s'était rien passé. Ce n'est pas ça, le pardon. Mais on n'a plus de dette. Et on peut à nouveau s'accorder. Il y a encore beaucoup de choses à dire. C'est vrai qu'il y aurait beaucoup dans la pratique. Ce n'est pas si évident. C'est un long chapitre. J'aurais pu le prêcher en deux fois, peut-être. Ça aurait été mieux. On aurait pu approfondir certains éléments. Et c'est vrai que peut-être qu'on peut trouver ces recommandations de Jésus, qu'elles ne sont pas faciles à mettre en œuvre. Hein. Dans la vie réelle, ce n'est pas si simple. Et je crois que c'est intéressant comment Jésus termine ce discours, cette parabole, cette histoire, où Jésus nous compare à un serviteur qui avait une dette de 60 millions de pièces d'argent envers Dieu. C'est la dette que nous avions envers Dieu. L'équivalent de 200 000 ans de travail, 200 000 ans de salaire. Vous savez, même les personnes les plus riches de la planète, elles auraient beaucoup de mal à rembourser une telle dette. Et savez-vous quoi? En Jésus-Christ, cette dette est totalement annulée. Est-ce que nous réalisons la grandeur de la grâce de Dieu envers nous? Est-ce que nous réalisons ce que ça représente réellement? Alors quand il nous est difficile d'aller parler à celui qui a péché contre nous, quand il nous est, semble impossible de pardonner, la parole de Dieu nous invite toujours et encore à regarder à la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ. La valeur incroyable du pardon dont nous avons fait l'expérience si nous sommes en Christ. Pardon offert par Dieu. Le Seigneur nous invite à nous laisser transformer par la grâce de Dieu. Et c'est pour ça qu'on sans cesse on se recentre toujours vers la croix de Jésus-Christ dans nos vies, dans nos cultes. On prend la Sainte Cène qui nous rappelle le sacrifice de Jésus-Christ tous les dimanches et on le prend ensemble, on l'a vu la semaine dernière, parce que c'est ça qui est le fondement de nos relations. Ce que Jésus-Christ a accompli pour nous. La grâce de Dieu en Jésus-Christ. Alors on est appelé à être une communauté qui vit, qui expérimente la grâce de Dieu en Jésus-Christ, et pas seulement en théorie, mais en pratique, dans nos relations. Il y a du boulot, hein, et ce n'est pas évident, mais toujours, toujours et encore revenir vers la croix de Jésus-Christ. Ça, c'est la vraie communion fraternelle. Selon le plan de Dieu, sur cette terre en tout cas, tant qu'on n'est pas dans l'éternité, ça reste le centre. J'invite à prier. Ouais, Seigneur notre Dieu, nous sommes là devant toi, conscients de la gravité du sujet que nous avons abordé aujourd'hui et dont tu nous parles, toi Jésus, à travers l'Écriture. Et Seigneur, nous savons que tu as un plan beau et merveilleux pour ton Église, comme un lieu où de communion fraternelle, un lieu où on vit des relations vraies, des relations marquées par ta présence, Seigneur. Mais nous savons aussi que tant que nous sommes sur cette terre, nous sommes encore en lutte avec le péché et que, Seigneur, tu veux nous aider à prendre cette réalité du péché comme quelque chose de sérieux. Aide-nous, Seigneur, à le prendre au sérieux dans notre vie communautaire. Aide-nous, Seigneur, à toujours nous rappeler l'humilité nécessaire, Seigneur, qui est celle que tu nous as laissée, l'exemple que tu nous as laissé en Jésus-Christ. Aide-nous, Seigneur, à pardonner et à vivre vraiment le pardon dans nos relations. Viens nous aider à le vivre d'une manière saine, viens nous aider à le vivre d'une manière ancrée dans l'œuvre de Jésus-Christ. Et Seigneur, j'aimerais te prier en particulier aussi pour celles et ceux qui peut-être sont encore attachés par des blessures, des douleurs liées aux quelque chose qu'on a pu leur faire dans leur passé. Et Seigneur, je te prie que par ta grâce, dans l'œuvre de Jésus-Christ, tu viennes restaurer, tu viennes guérir les blessures, Seigneur, pour qu'il puisse y avoir réellement, Seigneur, une restauration, non seulement dans leur vie, mais dans les relations. Seigneur, viens restaurer, viens rétablir, et donne-nous d'être une communauté, une église qui vit cela concrètement, qui contribue à la restauration des relations, à la guérison des blessures, non pas par nos propres forces, non pas par ce que nous sommes, mais par l'œuvre de Jésus-Christ accomplie une fois pour toutes à la croix, par laquelle nous avons le pardon des péchés, la réconciliation avec Dieu le Père. Et Saint-Esprit vient encore être cet esprit de réconciliation, de pardon, d'unité dans notre Église. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen.
Amen. Merci Timothée pour cette prédication qui était bien riche ce matin. D'ailleurs, c'est l'occasion de vous rappeler aussi que les prédications du dimanche matin sont maintenant retransmises sur YouTube. Et pour une prédication comme celle-ci, comme ce matin, je vous inviterai, moi le premier, à aller la réécouter et s'en imprégner. Et puis n'hésitez pas aussi à partager le lien. L'idée, c'est pas de faire un maximum de vues, mais si vous pensez à quelqu'un à qui cette prédication pourrait parler, et ben voilà, on a cette, on va dire cette ressource qui est gratuite et qui est accessible pour tous. Je vais inviter l'équipe de louanges